feel good. I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est le retour d'I Feel Good après une petite semaine prolongée. Et on a pu avoir le bonheur d'avoir une super rediffusion. J'en profite pour faire un petit clin d'œil. I Feel Good, c'est toutes les semaines l'occasion d'une rencontre avec une femme ou un homme qui prend le temps de s'arrêter une demi-heure, qui nous offre une demi-heure de son temps pour partager sa passion, son énergie, son envie d'agir. Il n'en manque pas, il n'en manque pas, il est réputé pour cela. Parfois, on se demande quand est-ce qu'il s'arrête, madame, mesdemoiselles, messieurs, le directeur général de l'OHS, entre autres, mais il s'agit de Renaud Michel.
So good, so good, I got you.
Bonjour Renaud.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça a toujours été comme ça, beaucoup d'idées, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'engagement, beaucoup d'action.
Je crois que c'est aussi l'idée que de donner envie, envie de faire, envie de vivre, envie de faire quelque chose, et pourquoi on le fait.
Alors voilà, reprendre doucement. C'est aussi l'envie de partager.
L'envie de faire avec les hommes, l'envie de faire pour les hommes, l'envie de faire dans des missions. Je pense que c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Peut-être que mes parents m'ont dû mettre quelque chose comme ça dans la tête.
Depuis
ou dans
toujours.
Le ventre. Depuis tout le temps. Mon père a commencé sur les produits régionaux. Ah, si ça, c'est pas le terroir, si ça, c'est pas la France, et si ça donne pas envie. J'ai toujours rêvé, je le ferai un jour, c'est de faire toutes les régions de France pour goûter tous les produits régionaux.
Ouais, je peux vous suivre. Non, mais alors plus sérieusement, c'est-à-dire pourquoi alors ?
Pourquoi ? Parce que ce sont des rencontres, parce que ce sont des histoires, parce que c'est un patrimoine, parce que c'est bon, parce que c'est la gastronomie, parce que ce sont des valeurs aussi.
Ça synthétise un peu les 15 ans d'engagement sur le territoire de Nancy où tu es arrivé il y a 15 ans ?
C'est pas que 15 ans, c'est aussi la même chose à Saint-Étienne quand j'ai travaillé dans des établissements mutualistes, mais c'est aussi à Besançon où je suis né. Et depuis 15 ans à l'OHS, mais j'ai eu la chance d'être pris, d'être choisi par une présidente à l'époque et un président aujourd'hui qui m'ont choisi pour accomplir cette mission au service des autres. Mais on en reparlera, je pense.
Alors justement, on présente rapidement, puis on va revenir sur l'homme, mais présentons rapidement l'OHS. Alors pour les vieux nancéens, on peut dire c'est Flavigny. Mais c'est quoi l'OHS aujourd'hui?
Ah, l'OHS aujourd'hui n'est que le relais de l'OHS d'hier. C'est-à-dire ce sont des hommes qui se sont dit en 1920, la Lorraine est complètement cassée, complètement détruite, avec des millions de morts, et des gens qui disent, pour les gens même fragiles, il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. On pense à l'OHS de Flavigny, mais je peux vous parler de la maison d'enfants, à Lunéville, mais aussi Bainville. Et depuis 1920, depuis 103 ans, 104 ans, oh là là, il faut que je m'y fasse, depuis 104 ans, ce sont des hommes au service des autres. Ce sont des aides-soignantes à Bainville, c'est l'assistante familiale dans le Toulois, c'est des éducateurs à Flavigny ou à Lunéville qui accompagnent des gens peut-être qui ont besoin d'un coup de main, d'un bâton, d'un appui, d'un relais. En tout cas, l'idée, c'est de faire sens au service des autres.
Alors, ça veut dire du médico-social, du sanitaire. Explique-nous un petit peu l'activité concrète, alors.
Très intéressant. C'est tout ça. C'est tout ce qui concerne la santé des gens. Parce qu'il y a un dénommé Parizeau, qu'on appelle ici le doyen Parizeau, qui s'est dit à un moment donné, la santé des gens, c'est tout ce qui touche la personne. On parlait de test à l'effort il n'y a pas longtemps, c'est de l'activité physique, c'est bien manger, c'est bien vivre dans son logement, c'est d'avoir des possibilités d'avoir accès à un médecin, d'avoir accès à un CHU, d'avoir accès à une clinique, d'avoir accès à un EHPAD, mais aussi on parlait de l'envie tout à l'heure, d'avoir envie de vivre. D'avoir envie de vivre, c'est le lien social, comme quoi je viens de passer en revue quoi, la chirurgie, le médical, le médico-social et le social.
Donc c'est vraiment une approche profondément humaniste et surtout profondément global.
Alors, non seulement humaniste, non seulement global, mais en plus, toi qui es un ancien, je crois, depuis tout le temps, Vous savez même pas, messieurs, dames, que vous avez inventé ici en Meurthe-et-Moselle cette mentalité, cette logique de la santé de la personne. Et une des premières dates que tu m'as demandé, que je t'ai fournie, c'est celle du 7 avril 48. C'est quoi 7 avril 48 ? C'est la création de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, qu'on avait oublié qu'elle était si importante pour nous, avant le Covid. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est le doyen Parizeau qui a signé pour la France la charte de création de l'OMS. Parce qu'il a mis en avant ce qui avait été inventé ici, l'accompagnement global de la personne et de sa santé.
Alors, le lien entre l'OMS et l'OHS, alors ?
C'est que simplement, le doyen Parizeau, il a été tellement en avance, en avançant sur justement cette santé globale. Inscription même dans la cité, l'inscription dans son réseau social, dans l'envie sociale. Ça peut être jouer au Scrabble, parce qu'on a envie d'aller jouer au Scrabble, c'est l'envie d'aller voir un match Just Luc. C'est l'envie aussi d'avoir accès à la santé, aux professionnels de santé tout le temps. Et pourquoi le lien ? Parce qu'il a défendu cette idée-là avant les autres, parce qu'il a su le mettre en place en Meurthe-et-Moselle. Vous savez peut-être que les centres sociaux en Meurthe-et-Moselle ont été mis en place par l'OHS, parce qu'on a eu jusqu'à 52 dispensaires sur la totalité du département, y compris en soutien de l'armée. Eh oui, il y a plein d'actions qui ont été mises en place en lien avec les autres acteurs.
Alors avec des acteurs qui étaient déjà positionnés, on avait les institutions religieuses à l'époque qui étaient quand même, tu évoques l'armée, l'hôpital, voilà. Comment l'OHS a émergé, avec quel statut aussi ?
Ah, très bonne question. Deux axes. La première, ils ont toujours souhaité, les créateurs de l'OHS, à le faire sous forme associative. Très très vite, je crois que c'est 1923, la reconnaissance d'utilité publique. L'objectif étant d'accompagner alors les gens qui avaient la polio, à Flavigny, très concrètement, mais aussi des mères seules, malades, des jeunes filles seules, malades, handicapées, mais aussi de se dire, ce qui compte, c'est surtout de le faire pour le bien de tous, sans aucun intérêt financier derrière. En inventant, il fallait inventer, il fallait innover, il fallait mettre à disposition. On parlait du CHU, les hospices civils de Nancy à l'époque, ont été en complément. Le professeur Parizeau a été un des acteurs en tant que doyen de la fac, mais aussi le lien avec le CHU, évidemment. C'est cette complémentarité qui est intéressante. Et s'il y avait une phrase à retenir de cette demi-heure, c'est peut-être, au-delà de l'envie de faire, c'est l'idée de unir sans absorber. C'est une phrase du doyen Parizeau qui dit qu'il faut unir nos compétences au service de la personne, de sa santé, mais aussi unir les acteurs. Qu'on s'appelle CHU, qu'on s'appelle OHS, qu'on s'appelle ville, qu'on s'appelle département, ou d'autres acteurs, quels qu'ils soient, même les entreprises. Je pense qu'il faut relier la totalité des acteurs.
Alors, le tissu associatif, ça veut dire qu'il y a une place pour la société civile dans l'organisation, dans l'insertion, parce que vous avez pris place là où des institutions publiques ou purement privé, n'était pas. Est-ce que ce modèle OHS, et on le voit bien, c'est un modèle multifacette, un modèle multi-approche, sans spécialité forcément liée à du handicap ou à de la maladie. Est-ce que ce modèle a fait des petits, ou est-ce qu'il reste unique, et s'il reste unique, qu'est-ce qui explique aussi sa longévité, pour pas dire sa réussite ?
Je pense que c'est un mélange. C'est un mélange des deux. C'est à la fois, c'est juste la loi de 1901, l'idée associative, associée, les gens ensemble, les gens qui s'accompagnent ensemble, qui s'écoutent, qui travaillent ensemble, qui se coordonnent. Après, sur l'idée d'être multifacette et dans tous les champs, comme je viens de le dire, de la santé, nous sommes peu.
Plus large que la santé. Enfin,
Nous sommes peu en France. Par contre, cette idée-là se retrouve. Mais ce n'est pas grave qu'elle se retrouve dans une seule entité, dans plusieurs entités, sous réserve qu'il y ait cet unir sans absorber. Parce que même à l'intérieur d'une entité, il faut pouvoir valoriser le champ sanitaire, le champ médico-social, le champ social. Chacun dans sa logique. Et ensuite, le travail, c'est de les coordonner. C'est de leur permettre d'être autour de la personne et pas autour de l'établissement.
L'OHS en quelques chiffres, en personnes accompagnées, est-ce qu'on a une idée là, et en personnes salariées qui accompagnent ?
Alors, l'OHS, on va dire en propre, en sens juridique, parce que j'aime bien parler de partenariat, En sens juridique propre, c'est un peu plus de 2000 salariés, deuxième employeur privé du département. C'est plus de 12 000 personnes accompagnées tous les ans. Alors certains viennent une fois dans l'année, d'autres 12 mois, 365 jours dans l'année. Certains restent 20 ans dans nos structures, être accompagnés. C'est aussi 870 000 repas par an. C'est aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'ARS, le département, la préfecture qui nous font confiance, qui nous délèguent des missions de service public. Parce que tu parlais tout à l'heure que c'était à la place. Non, je pense que le secteur associatif a toujours su être innovant quand il y avait des besoins détectés sur le terrain. C'est un mélange de travail sur le terrain à partir des besoins des gens et dans un cadre légal qu'on a appelé de nos voeux pour que tous les Français puissent en bénéficier.
Dans l'histoire d'une organisation comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce qu'on peut partager un peu des hauts et des bas, Renaud ?
Je pense que les hauts et bas en même temps, c'était les moments de création. C'est pas simple de partir d'une friche, de rien. Encore une fois, on sort de la Première Guerre mondiale, où s'occuper des personnes plus fragiles, où s'occuper des personnes alors âgées, il y en avait très peu à l'époque. C'était pas si simple que ça, d'oser faire ça. Après, il y a eu, oui, quelques dates très très importantes. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, cette création de l'OMS, le travail de Parisot, jusque dans les années 80, a été des moments importants de développement, d'accompagnement, de services complémentaires, d'invention. Quelques moments difficiles, début des années 80, quand l'OHS avait mis en place, et c'était d'ailleurs dans le premier département de France où on a créé la PMI. Et c'est l'OHS qui l'a créé et qui l'a coordonné. Pourquoi je dis moment compliqué ? Parce que quand la loi de décentralisation est arrivée, on nous a dit « c'est plus à vous de faire ». Ah, on l'avait inventé, donc il y a eu un sentiment des 500 salariés qui ont été transférés au département de dépossession, de non-respect du passé. Aujourd'hui, tout se passe bien, le département fait très bien son travail pour la PMI et on est en complémentarité avec lui.
Ça, c'est l'OHS aujourd'hui, enfin d'hier et d'aujourd'hui, sans dévoiler le demain, mais une structure comme l'OHS, ça dessine comment son avenir, comment ça prépare son avenir?
Alors, comme toute structure, on appelle ça un plan stratégique, on appelle ça une réflexion, on appelle ça un échange entre la direction générale et le conseil d'administration. Puis en fait, non, on ne fait pas comme les autres, dans le sens où j'ai la chance d'avoir un Parisot, d'avoir un conseil d'administration qui est toujours dans la même mentalité de s'occuper des personnes, d'accompagner les personnes, de réfléchir par rapport aux besoins des personnes et pas par rapport à elles. Donc mon plan stratégique, il est simple, c'est s'occuper de la santé globale des personnes.
Et ces détecteurs de besoins des personnes, comment on les met en place, ces détecteurs ?
Deux axes. Compliquées, ces questions-là, elles sont très intéressantes. C'est s'appuyer déjà sur des professionnels qui accompagnent des personnes et leur laisser la possibilité de travailler auprès des personnes. Je parlais de l'éducateur spécialisé qui travaille à Briey, par exemple, savoir faire remonter les besoins d'une personne, les particularités, y compris notre travail en silo administratif dont on est parfois friand en France. Mais pouvoir s'affranchir de ça, ou des besoins d'un jeune, je ne veux pas dire les prénoms, mais et puis de savoir s'adapter à lui. Faire remonter ces données-là. J'ai la chance de m'appuyer sur plus de 100 métiers différents à l'intérieur de l'OHS. 2000 salariés, 61 établissements et services. Être capable de récupérer cette donnée-là pour mieux la travailler ensemble. C'est la difficulté, mais c'est l'intérêt. C'est ce qui me motive le matin. C'est faire travailler un éducateur avec un médecin, c'est de faire travailler une infirmière avec un neurologue qui m'avait dit lors de la crise de l'épilepsie. C'est la femme de ménage qui, la première, a vu la crise, le jeune qui faisait la crise, qui a pu voir quel mouvement il a fait. Et ça a aidé le neurologue à pouvoir traiter, diagnostiquer quel est l'impact de l'épilepsie. Mais ça, il faut de l'intelligence collective. Il faut des gens qui se parlent, il faut des gens qui s'acceptent.
On a la chance d'avoir un beau fruit de médico-social, de santé, d'accompagnement en Meurthe-et-Moselle. Petite pause musicale avec la proposition de Renaud Michel. On la débriefe juste après l'avoir écoutée. Thank you.
started swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Oh, ça faisait longtemps. Billy Hallyday sur RCN.
I Feel Good sur RCN. Christophe Chevardet.
Pourquoi ce choix, Renaud ?
Ah, parce que cette chanson, il y a tout.
Billy Hallyday, pardon. Pour ceux qui ont réécoutent l'émission, on ne peut pas l'avoir, la musique. Voilà.
Billy Hallyday, il y a tout dans cette chanson. Strange Fruit, c'est quoi ? C'est la beauté de l'être humain, sa voix, la profondeur de la voix, la beauté de la musique,
ouais.
Ses passages, mais aussi la noirceur de l'être humain. C'est quoi l'histoire de Strange Fruit ? C'est quoi ces deux Noirs dans l'Alabama qui sont poursuivis, suspectés d'avoir volé ? Et la foule les a rattrapés et les a pendus. Et avec cette chanson, il y a aussi une image, une photo de deux jeunes pendus à un arbre et avec une population en bas qui vient regarder au spectacle.
Au spectacle, ouais.
On a tout dans cette chanson. La beauté, la noirceur. C'était aussi un message pour faire passer que l'être humain, il peut faire le bien, il peut faire le mal. Et dans notre secteur d'activité, je pense qu'il faut c'est qu'on se dise les rencontres, les besoins des personnes, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour eux, et c'est très beau à faire, et on sait pourquoi on se lève le matin.
Oui, oui, monsieur le directeur général. En même temps, ça peut être fatigant, psychologiquement, moralement, dur au quotidien d'être exposé à une souffrance, à une... Parfois une violence même. Comment on accompagne tout ça ?
Eh bien, on peut voir le côté noir, la noirceur de la photo, mais on peut voir aussi l'idée que demain, on
c'est
peut modifier les choses.
C'est pas la noirceur de la photo, c'était une réalité humaine.
Ouais, oui, oui. À travers la photo, c'était aussi l'image de cette réalité humaine. Moi, je pense aussi aux élus politiques. On se dit toujours, à titre individuel, que c'est compliqué. Mais en même temps, ils sont engagés pour la cité, ils sont engagés pour faire. Et je pense que ce qu'ils voient... C'est pas le problème qu'il y a, c'est les solutions qu'on peut mettre en place. Et ben moi, c'est comme ça que je vois que c'est pas lourd à porter. C'est un intérêt. On sait pourquoi on est là. Le petit Kylian, on sait ce qu'on a fait pour lui. La petite Lily, on sait ce qu'on a fait pour elle. On sait que, ben, elle est décédée, mais on l'a accompagnée, on a pu faire des choses. Il y a plein d'histoires comme ça. Et ma troisième date que tu m'avais demandé, c'est ouais. Celle du 30 janvier 1930.
Ah, tu m'as même demandé, mais pourquoi ? Justement, parce que tu évoquais à l'instant, Billy Hallyday, le sens, faire société, tu fais appel aux politiques, et je crois qu'en près de 300 invités, bientôt, tu es le premier à me donner une date aussi politique, le 30 janvier 1930.
C'est quoi cette date ? C'est cette date où Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par la démocratie. Et je pense que ça m'a marqué, et pourtant je ne suis pas un enfant de la guerre, hein. Je suis né en 1969, donc on était largement et très loin. Par contre, ça m'a marqué des rencontres avec des résistants, avec des gens qui ont connu ce temps-là, et de me dire que ce n'est pas la guerre qui a amené Hitler, quoique. Mais c'est la démocratie qui a permis à Hitler d'être au pouvoir, et ensuite il en a fait sienne, avec sa manière de voir barbare. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse notre société, et qu'on fasse attention que le vivre ensemble, le unir sans absorber, le fait de faire du bien ne se fasse pas au détriment du bien collectif et que la donnée individuelle ne fasse pas au détriment de ça. Et cette date-là, faut pas l'oublier.
Décodant un tout petit peu, c'est que le bien individuel ne se fasse pas au détriment de l'intérêt collectif ou de l'intérêt général. Tu veux dire quoi? Sur quel point d'attention tu veux fixer notre attention ou mettre des perspectives?
Je pense que tout le monde voit bien ce que je veux dire. C'est que de vivre ensemble dans un quartier, c'est pas simplement de dire « moi j'ai raison par rapport à l'autre », mais c'est aussi de comprendre comment est l'autre, comment vit l'autre, de le connaître, et puis de se dire comment faire pour cohabiter, habiter, vivre ensemble. Je pense que les trois termes sont importants.
Et comment l'OHS apporte sa pierre à l'édifice du habiter ensemble, vivre ensemble?
Vous savez, quand une personne handicapée, on lui permet d'être accompagnée à l'école, quand on lui permet que sa famille ne se déchire pas et qu'on puisse accompagner par de l'expertise, je pense que là, on fait du vivre ensemble. Ou quand on me dit que, et c'est ma troisième date, c'est qu'en 2030, 30% de la population aura plus de 65 ans. C'est 20% en 2020. C'est énorme, c'est un changement de société. Eh bien, certains me parlent de problèmes, parce qu'il faut trouver de l'argent, le financement de la dépendance. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas un problème. C'est à des solutions à trouver. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour que la société puisse vivre? Et qu'est-ce qu'on fait qu'on puisse mettre en avant qu'aujourd'hui, dans notre 21e siècle, à 65 ans, à 70 ans, à 75 ans et plus, on peut vivre. Avant, on ne vivait pas, on n'atteignait pas à cette date-là. Mais c'est génial! Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre ça?
Donc, tu te substitues à l'animateur, c'est un vrai directeur général. Donc, je ne peux plus poser la question de la troisième date importante dans ta vie. C'est demain, tu viens de l'évoquer, mais on va revenir dessus. Et je ne peux plus poser la question du financement. Mais pourtant, on ne peut répondre à ces besoins sociétaux que parce qu'on a fait une production de richesse. Alors, peut-être ça interroge la production de richesse dans une société. Ton espoir, ta troisième date importante dans ta vie, je reviens donc dans le bon ordre, ta troisième date importante, c'est demain. Pourquoi cet espoir invétéré et par quelles conditions on peut avoir espoir en l'avenir? Autrement dit, par quelle production de richesse ensemble on peut réussir à garantir ce contrat social? Vous avez 7 minutes.
7 minutes, oui, c'est
pas,
ça.
Même pas.
C'est ça. Demain, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que l'être humain ne tue pas sa planète, c'est ce qui fait que l'être humain ne tue pas des tours, ne met pas des bombes, c'est quand on se dit qu'il y a encore un espoir et qu'il y a encore quelque chose à faire. Et le vivre ensemble, et là c'est très personnel, hein. On parlait tout à l'heure, je parle beaucoup de l'OHS, mais c'est très personnel, c'est ce qui fait qu'on a envie d'être là demain, c'est ce qu'on a envie et qu'on peut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux faire moi à l'intérieur de cette société pour que demain je puisse être là? Pour que mes enfants puissent vivre dans un endroit intéressant pour eux, où ils pourront faire ce qu'ils ont peut-être envie, et pas simplement de survivre. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh ben, on peut se bouger, on peut faire, mais c'est génial, il y a plein de choses à faire, il ne faut pas voir les problèmes, il faut voir les solutions. Par contre, il faut oser les faire ensemble.
Alors,
ce qui est génial dans
justement,
ce que je dis,
parce que
je me permets,
ouais,
pardon,
ouais, ouais,
c'est qu'on peut le faire que si on le fait à plusieurs.
Voilà, alors justement, j'allais rebondir sur le plusieurs et faire ensemble, parce que on dit de l'OHS qu'il prend beaucoup de place sur le territoire, est-ce qu'il y a de la place pour les autres? Comment on fait avec les autres?
C'est pas possible de faire sans. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu me parlais de santé, de médico-social et de social. On voit bien qu'il faut permettre des acteurs différents à être complémentaires autour de la personne. Donc c'est pas possible de faire seul. On peut pas faire sans le politique, sans les sociétés, sans les acteurs, que ça aille de la préfecture au département, à l'ARS, aux autres acteurs associatifs. Et heureusement qu'il y a les acteurs associatifs. Ils osent faire des choses, ils osent faire ensemble. Ils ont tout à fait cette philosophie et cette dynamique intérieure. Ils l'ont prouvé hein, depuis 1901. À nous d'appuyer dans cette logique-là, à nous de faire ensemble, à nous de nous écouter.
Depuis 15 ans, tu diriges l'OHS. J'ai envie de dire... Un moment fort pour toi de relecture de ces 15 ans, et puis un cap qui te semble important pour les années à venir.
Moment important, c'est les rencontres avec des personnes. Alors le problème que j'ai, c'est que j'ai rencontré plein de personnes ici. Est-ce que Nancy est différente de Saint-Étienne? Est-ce que Saint-Étienne est différente de Besançon? Non, mais ce sont les hommes qui font la différence. Et depuis 15 ans, j'ai rencontré des personnes engagées, j'ai rencontré des personnes qui ont envie au service du bien commun. Bah moi, ça m'apporte. Et c'est ce qui m'enrichit. Encore hier, j'ai rencontré une nouvelle personne autour d'une galette. Et je pense que c'est important et intéressant de rebondir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y aura encore des dates importantes demain pour rebondir? Il y en a tous les jours.
Oui, alors une date ou un enjeu, une échéance qui fait partie d'un défi auquel tu as envie de répondre?
J'ai envie de répondre à ce que, dans les prochaines élections, on continue à pouvoir échanger ensemble, en toute liberté, et puis ensuite, en 2030, qu'on puisse accompagner ces 30% de seniors. Et puis quand on parlera plus de personnes handicapées, parce que ça sera inclus avec nous et en échange, ben, on aura gagné.
Merci Renaud d'avoir pris le temps de poser ces 30 minutes en notre compagnie, un peu moins de 30 minutes, puisqu'il faut répondre aux impératifs martiaux de la technique de cette radio. Et j'en profite pour saluer notre responsable technique Jean-Luc, qui fidèlement assure la technique depuis plusieurs années de cette émission. Merci Renaud d'être venu. Belle continuation à toi, tes formidables équipes, tes établissements et tous ceux qui bénéficient de votre accompagnement. On en profite pour les saluer.
Merci de les mettre en lumière.